à tous, chers amis. Nous sommes dans la paracha Emor, comme on a déjà vu cette semaine. Mais aussi, on est en plein Sfira de Netzar, Sfira de l'endurance, la constance, la force, l'ambition. Et c'est aussi le chapitre 3 de Pirkei Avot que nous allons lire ce Shabbat. Et justement, on va s'arrêter sur cette Sfira de Netzar, comme on l'a parlé longuement dans le cours de Tanya hier, Shara Yichud Vaimuna, chapitre 10, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Et aujourd'hui, on va parler justement sur quel est le secret de l'endurance du peuple juif. Et le secret, la force du peuple juif qui, à travers tous les tempêtes, à travers tous les temps, depuis 3000 ans, a réussi toujours à être présent, comme il est connu sous le nom du Hamanetzach, le peuple éternel. Comment se fait-il? Pourquoi? Quelle est cette force? Et surtout, quel est le secret derrière? Alors, on va commencer avec une Mishnah. Mishnah de Pirkei Avot. Rabbi Elazar ben Azaria, chapitre 3, Mishnah 17. Rabbi Elazar ben Azaria qui vient et qui nous dit la phrase suivante. Tout celui que sa sagesse est plus grande que ses actions, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de connaissances, mais beaucoup moins d'actions. À ce moment-là, les maodomés, à quoi il ressemble? Il ressemble à quelqu'un, à un arbre, qui a beaucoup de branches, très peu de racines. Mais qu'est-ce qui peut se passer? C'est qu'à la roue, bas, le vent, il vient, la tempête. Il le déracine et le fait tomber par terre. Comme il amène le verset, va yak araba araba, va le yirek yabatobof. Aval kol shema asa mobi mechorchmato, mais tout celui que ses actions sont plus grands que sa sagesse, que sa connaissance, le maudome, lui, à quoi il ressemble? Il te dit, le ilan, c'est un arbre, c'est un afam moitin, qui a peut-être très peu de branches. Mais, shavacha moitin, il a beaucoup de racines. Shafilo kol aruchot shema olam barot vena shodbo, que même si tous les vents du monde entier viennent et le basculent, En mezizin atom imkomo, au final il ne bouge pas, parce qu'il est bien implanté. Viens Rashi, commentateur de la Mishnah, commentateur de la Torah, et qui te dit que cet exemple que la Mishnah elle a pris avec les branches et les racines, il est exact. Parce qu'il te dit comme ça, Shorashav, c'est quoi les racines? Elou Maasav, c'est ses actions. Telambrin alel, comme on a vu déjà plus haut, dans Pirkei Avot, velo amidrash ikar ela amaase. C'est pas l'action qui compte, c'est pas l'étude qui compte, mais l'action. Rashi vient te donner ici un sens nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire la phrase Amaase ou Aikar? C'est l'action qui compte. Qu'on a l'habitude de dire qu'Aikar, c'est quoi? C'est ce qui est important. Viens, Rashi te dit qu'Aikar, ici, quand on a dit le mot, que le mot essentiel veut dire les racines. Donc, quand Midrash Aikar et Amaase te dire, c'est pas la sagesse qui est la racine, mais c'est l'action qui est la racine. Et la sagesse, c'est les branches. Mais non, essayons de réfléchir. Qu'est-ce qui amène à quoi? Est-ce que c'est la sagesse qui amène à l'action ou c'est l'action qui amène à la sagesse? La réponse, elle est bien sûr, c'est la sagesse qui amène à l'action, la connaissance. Quand tu apprends quelque chose, après tu peux le faire. Et c'est d'ailleurs ce que la Gemara nous dit. Gadol Talmud, tu me vilis de masse, grande est l'étude, c'est ça que tu apprends, tu arrives à la faire la pratique. Alors, si c'est comme ça, c'est la sagesse qui aurait dû être la racine, ouais. Et c'est l'action qui aurait dû être les branches. Comment c'est sûr que la Mishnah te met ça à l'envers? La Mishnah, elle te dit non, que l'action, c'est la racine, et la sagesse, c'est la branche. D'accord. Pour comprendre ça, il faut regarder ce qu'il dit dans la voix de Rabbi Nathan. La voix de Rabbi Nathan qui vient nous expliquer justement cette Mishnah. Il te compare l'action et la sagesse à ce qu'on a dit qu'on a reçu la Torah qu'on va recevoir dans quelques semaines, Shavuot. Naase venishma. Ou ailleurs, mère, kol shema asam urbi bechokhmato. Qu'est-ce que ça veut dire tout celui que toutes ses actions sont plus grandes que sa connaissance? Shenema, naase venishma. Comme on a dit, on va faire et on va comprendre. Donc on parle ici en vérité de deux approches dans le service de Dieu. La chokhma, c'est quoi la sagesse? La connaissance, c'est ce qui construit tout sur la logique. Ce qui est nishma venaase. D'abord on va comprendre, après on va faire. Ce que je comprends, je fais. Ce que je comprends pas, je fais pas. L'action, c'est plutôt une approche qui est basée sur Kabbalat Ol, la soumission à la volonté de Dieu. Naase venishma, on va faire, on va comprendre. Je vais faire que je comprenne ou que je comprenne pas. Maintenant on comprend la Mishnah. La Mishnah elle te dit que la base de tout c'est Kabbalat Ol. Ça c'est la racine. La compréhension, c'est les branches. La base, c'est d'abord, est-ce que je fais parce que c'est Dieu qui m'a demandé ou parce que j'ai compris? Si je fais parce que j'ai compris, c'est un problème, parce que le jour où j'ai pas compris, j'arrête de faire. Si je fais parce que c'est la volonté de Dieu, même si j'ai pas compris, je fais. Dans la Kabbale.
La sagesse, c'est pas le fait de comprendre, c'est surtout le fait de savoir, déjà.
Oui, mais savoir, c'est une chose. Mais est-ce que savoir, c'est préalable, c'est une condition préalable à l'action, ou pas?
Parce que tu sais pas, tu peux pas savoir.
100%, mais si j'ai pas compris, c'est pas seulement savoir. On parle de connaissance, on parle de savoir, comprendre, la sagesse. Le Mishnah vient te dire que la Kabbalah Tol, la mission à la volonté de Dieu, c'est l'essentiel. Dans la Kabbalah, faire sans sentiment et sans comprendre, C'est ce qu'on appelle, s'il découle de la Mida de Netzach, ce qu'on est en train de faire cette semaine dans le Homer tous les jours. C'est quoi cet attribut de Netzach qui est l'endurance, qui est l'ambition, qui est ce qu'on a dit tout à l'heure, la constance et la force. On va voir d'abord, qu'est-ce que ça veut dire Netzach? Pourquoi Netzach et comment Netzach? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. D'abord, quelle est la traduction? Qu'est-ce que ça veut dire le mot Netzach? On va dire quelque chose de Netzach. Il y a deux explications. On peut traduire ça par le terme Nitzachon, qui veut dire la victoire. Et ça peut être traduit par le terme Nitzriut, l'éternité. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Pour ça qu'on prononce, c'est quoi Netzach? Qu'est-ce que ça veut dire cet attribut de Netzach dans lequel on est cette semaine, chaque jour en train de raffiner notre Mida? Il y a trois manières, il y a trois façons de pouvoir faire quelque chose. La compréhension, ce qui enveloppe les trois premiers Midot, Chabad, Chochma, Bina, Dat, sagesse, intellect et connaissance. T'as compris qu'il faut faire quelque chose et pour ça tu le fais. Deuxième étape, Chagat, Chesed, Gvura, Tiferet, qui est les sentiments. Tu t'enflammes par ça que tu aimes faire quelque chose et pour ça tu le fais. Mais après arrive Netzach, qui est la septième sura, qui est être s'entêté sans raison, qui veut dire j'ai pas compris, je m'enflamme pas du tout, mais je le fais même si j'ai pas envie de le faire. Et en réalité, chacun d'entre nous peut être face à ces trois situations. Parfois on comprend quelque chose, on s'identifie avec la mitzvah, ça nous fait plaisir de le faire pour ça on le fait. Parfois on a un engouement vers cette mitzvah et pour ça on a envie de le faire. Parfois on n'a ni envie, ni engouement, ni désir, et quand même on le fait. Même si on n'a pas du tout envie de le faire, bien au contraire, ça nous dégoûte, ça nous embête plus qu'autre chose, on le fait. Alors la question qui est demandée dans cette Mishnah, quand est-ce qu'il y a ce qu'on appelle une éternité? On a dit que Netzach, c'est le mot d'éternité, l'éternité à l'action de l'homme. Quand tu agis par sentiment, quand tu agis par le cerveau, ou quand tu agis par entêtement du fait que c'est comme ça, ça ne peut pas être différent. La réponse, Midat HaNetzach, c'est la Midat de Nitzriut, qui veut dire l'éternité qu'on a dit tout à l'heure. Si tu fais une mitzvah seulement parce que tu as compris, il n'y a pas d'éternité. Parce que parfois tu comprends, parfois tu ne comprends pas. Si tu fais une mitzvah seulement parce que tu as un plaisir et un désir, parce que tu as envie de le faire, il n'y a pas d'éternité. Parfois j'ai un plaisir, parfois je n'ai pas un plaisir. Mais si tu fais une mitzvah par entêtement, dans n'importe quelle circonstance, dans n'importe quelle situation, parce qu'il faut la faire, à ce moment-là, il y a une éternité. Même si je n'ai pas compris, même si je ne ressens rien. Même s'il y aura des difficultés, je vais toujours tout faire pour pouvoir faire les mitzvot. Midat HaNetzach, quand tu parles de l'endurance du peuple juif, quand tu parles de cette midah qui est la force, l'ambition du peuple juif, il y a ce qu'on appelle être Dvekut Bamatara, qui est toujours regarder le but. C'est quoi la mission? Pourquoi je suis là? Pourquoi je dois faire cette chose-là? Pas parce que j'ai envie, pas parce que j'ai compris, parce qu'il faut le faire. Parce que c'est ce qu'on attend de moi, c'est ce qui doit être fait. Je le fais, que j'ai compris ou j'ai pas compris, que j'ai un bon sentiment, que j'ai un mauvais sentiment. Je le fais parce qu'il faut le faire. Dans ce cas-là, tu sais que ça va durer. On voit ça dans la vie de couple. Première année après le mariage, tu peux avoir un grand enflammant, un grand enthousiasme. Et chacun, il essaie de plaire à l'autre. Et chacun, il essaie de céder à l'autre. A priori, c'est la situation idéale. Ouais. Arrive la deuxième année, cet enflammant descend. Et là, c'est où il y a le test dans le couple. Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont toujours être avec le même engouement, le même enflammant de l'un envers l'autre comme ils étaient dans la première année du couple, dans la première année de mariage? Si tout était basé seulement sur l'enflammant, il n'y a aucune chance qu'ils vont garder avec cette paix éternelle qui va durer sur le long terme. Pour ça, on a besoin d'avoir la Midat HaNetzach, qui est de s'entêter positivement en disant qu'on doit tout faire pour qu'il y ait un Shalom Bayit entre nous, qui est l'harmonie dans le couple. Et ça, ça développe un lien entre les deux qui est beaucoup plus profond, de ne pas s'intéresser à ce qui me plaît, ce qui me fait plaisir, ce que je comprends, mais parce que nous, on s'est engagé dans cette liaison qui doit durer éternellement, coûte que coûte, peu importe ce qui se passe. Automatiquement, ça peut durer éternellement. Regardons dans l'histoire de notre peuple. On a eu trois périodes. On a parlé ça un long moment dans le cours des Sfirot, et à comprendre les Sfirot, que je conseille à tout le monde de le regarder sur Torah.fr, comment les six jours de la création correspondent aux six millénaires. On a eu la période dans le désert, quand le peuple juif était avec Moshe dans le désert, ils étaient appelés Dordéa, la génération de la connaissance. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la Torah de Moshe directement, ils comprenaient la Torah au niveau le plus élevé, la meilleure manière possible, ils pouvaient faire les mitzvot avec une identification directe avec les mitzvot et une compréhension parfaite. Et arrivé après la période du temple, au temps du temple, on a fait les mitzvot parce qu'on avait ce sentiment vers les mitzvot. Quelqu'un est monté dans le temple, il voyait les miracles qu'il y avait dans le temple, il voyait le feu qui tendissant du ciel, il avait tous ces sentiments d'amour et de crainte envers Dieu, c'est peut-être pas forcément basé sur la compréhension. Mais après on arrive à la période dans laquelle nous sommes malheureusement près de 2000 ans. C'était la période de la galoute, dans laquelle il n'y a pas de dévoilement divin comme il y avait au temps du temple, comme le Navi nous dit. Tout a l'air sombre, on ne voit pas avec nos yeux la divinité sur terre. C'est difficile de développer des sentiments d'amour et de crainte envers Dieu. Pourquoi alors on fait les mitzvot? Midat HaNetzach. Midat HaNetzach, ça veut dire cette endurance, cette force, cette ambition, cette constance que le peuple juif est doté comme trait de caractère et qu'on le met en application tous les jours. Et donc, comme on a dit ça dans le texte. Mitzad, Godal, Veri, Boyal, Mad, Vestem, Shivet, Managalot, à cause de tous les empêchements et de toutes les difficultés qu'il y a en exil. Ikara, Vada, Bishman, Managalot, l'essentiel du travail que nous avons en exil, c'est Medarech, Nitzachot, avec cette victoire. Viat Chazak, d'être fort dans l'accomplissement de la Torah, les Mitzvot concrètement, Mibli, les Trachev, sans calculer, Imshum, Maner, Meakev, sans aucun empêchement, quoi que ce soit, de l'intérieur ou de l'extérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle Messirut Nefesh, cette abnégation de soi qui est beaucoup plus haut que la logique, beaucoup plus haut que la raison. La raison pour laquelle cet investe à Dagalut, pourquoi ce voilage qu'il y a dans l'exil aura qu'à la Kochotnimim, seulement sur les forces internes de l'Anshama et pas sur Midat HaNetzar, parce que la racine de cette trait de caractère, cet attribut de Netzar, de cette endurance, de cette ambition, de cette force, c'est dans l'essence de l'Anshama, dans l'essence de l'Anshama. La question elle est, alors pourquoi quelqu'un va être têtu pour faire une mitzvah, même s'il n'a pas envie de le faire et il ne comprend pas? C'est expliqué dans la Chassidut justement. Que Midat HaNetzar, cet attribut de Netzar, est enraciné profondément dans notre âme. Oui, c'est vrai que la force de comprendre et de ressentir, c'est aussi dans l'âme, mais ce n'est pas l'âme elle-même, ce n'est pas encore la personne elle-même. Où s'exprime la personne dans Midat HaNetzar? C'est la plus forte de toutes les Midot, la plus forte de tous les attributs avec lesquels on sert Dieu. Plus fort que le cerveau, plus fort que le sentiment. Quand quelqu'un il veut quelque chose réellement, avec le plus profond de lui-même, il va s'entêter pour pouvoir le faire à tout prix. Même si c'est contre son cerveau, même si c'est contre son sentiment. Et si tu lui demandes pourquoi tu le fais, va dire comme ça. Parce que ça, c'est ce que je suis, et ça, c'est ce que je dois faire. Une fois, quelqu'un a demandé à vie précédent, pourquoi les tefilines sont du côté gauche? On les met toujours du côté de la main faible, du côté gauche. Le précédent a répondu, demande une autre question. Pourquoi ils sont noirs? Pourquoi ils sont carrés? Pourquoi juste gauche, etc. Est-ce que tu sais pourquoi Dieu veut juste des tefilines carrées et pas rondes, noires et pas vertes? Parce que Dieu veut qu'on le sert de cette manière-là. Ça veut dire, si je comprends, je ne sers pas Dieu, je me sers moi-même, parce que j'ai compris, pour ça je le fais. Si je ne comprends pas, je le fais parce que c'est ce que Dieu lui a demandé. Et c'est la fameuse phrase que la Gemara a dit, si Dieu nous aurait demandé de couper du bois tous les jours, on aurait fait ça pendant 3 heures. Mais il n'a pas demandé une chose, il a demandé de prier 3 fois par jour, c'est différent. C'est pour ça qu'un juif, il fait les mitzvot, et quand il s'entête à faire les mitzvot, même s'il n'a pas compris, même s'il n'a pas ce sentiment, cette enflammation, il n'a pas cet engouement, il n'a pas ce plaisir quand il fait les mitzvot. La Torah ne cherche pas forcément à ce qu'on fasse les choses comme un robot, il faut comprendre, mais pas comme condition préalable. Pourquoi alors il fait les mitzvot? Parce que c'est enraciné dans la neshama d'un juif, dans l'âme d'un juif. Comme l'Admor HaZaken te dit, la fameuse phrase qu'un juif, ni il veut et ni il peut se séparer de Dieu. Un juif, il est prêt
à faire les mitzvot. Pour faire et aussi.
Bien sûr qu'il faut, mais quand même, il faut en train de parler. Quel est au final le secret de survie? Quel est le secret de survie? Bien sûr qu'il faut comprendre, il faut avoir la passion, il faut avoir l'endurance, tout ça c'est magnifique. La question, elle est, quelle est la fondation? Tout à l'heure, on a parlé de la différence entre les branches et les racines. Et que la racine, c'est net, ça. La racine, c'est que je suis prêt à le faire, même si je comprends pas. Même si j'ai pas de goût, même si j'ai pas d'engouement, même si je suis pas intéressé. Bien sûr que si je le fais avec goût et passion, c'est encore mieux. Mais si je l'ai pas, c'est pas pour ça que je vais pas le faire. Alors pourquoi je le fais? Parce que je suis juif. Et ça, c'est quelque chose qui s'exprime particulièrement en exil. Malgré qu'on ait une situation dans laquelle il n'y a pas un dévoilement divin, il y a tellement de difficultés spirituelles, matérielles. On a vu à travers tous les temps, depuis 2000 ans d'exil, que le peuple juif a toujours s'entêté à faire les mitzvot pour n'importe quel prix, était prêt à faire, mais c'est au 9 et je suis. Tellement d'histoires sans fin avec Hanas et cet enfant, avec le Tzanikolaïs, sans fin les histoires. Maintenant, on comprend, on revient à la source. Pourquoi la Mishnah, elle a appelé l'action les racines et la connaissance les branches? C'est quand tu fais les mitzvot avec Kabbalah Tor, avec soumission à Dieu, sans comprendre, sans ressentir, ça vient d'exprimer ton âme, qui tu es. La Chochma, la sagesse, c'est la branche. Et c'est pour ça qu'on a dit que quand tu as beaucoup d'actions, ça veut dire que chez toi, le judaïsme, c'est Kabbalah, la soumission à Dieu. Sans forcément comprendre ou ressentir, aucun vent pourra te faire tomber. Aucune tempête pourra te faire tomber. Parce que net, ça veut dire l'éternité. Mais quand tu as trop de connaissances, si tu as beaucoup de connaissances, que pour toi, l'essentiel, c'est la compréhension. Mais l'action, elle est très peu. À ce moment-là, n'importe quel vent va te faire tomber. Parce que la compréhension, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre. Il y a des choses que tu ne comprendras plus. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ben, le vent, il te fait tomber. La première tempête arrive, tu ne fais plus. Parce que ça se pose pas sur ma tête de manière logique. Je n'arrive pas à l'analyser ou le comprendre de la manière comme j'aurais voulu. Ça, c'est ce que la Torah te dit, c'est ce qu'on prépare à chaque fois. Dans la Seven Nishma, on va faire, on va comprendre. D'abord, on doit faire. Peu importe si ça nous plaît ou ça ne nous plaît pas. Et après, on va essayer de comprendre. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut être têtu pour être bête. Comme parfois, des gens peuvent utiliser la Midat HaNetzar de manière négative. On parle ici de Midat HaNetzar de manière positive. D'abord, on a deux types de Netzar, comme on l'a dit tout à l'heure. On a ce qu'on appelle Netzar Dikdusha. Netzar Dikdusha veut dire cet attribut de ce qu'on appelle avoir cette endurance, avoir cette force, avoir cette constance, cette ambition dans la Kedusha. Ça, ça vient de la Neshama, qui est un juif qui fait les mitzvot avec un attachement à Dieu sans relâche, parce que je suis juif. Il n'est pas en train d'écraser tout celui qui a son chemin. La seule chose, c'est qu'il pense à la mission. Qu'est-ce que Dieu il attend de moi? Ça, bien sûr, c'est un très bon trait de caractère. Parfois, ça peut s'exprimer de manière inverse. Qu'est-ce que c'est quoi la netzar? C'est quoi ce niveau de netzar dans les clipots, dans les forces du mal? Ça, ça vient de l'ego personnel. Quelqu'un qui décide, coûte que coûte, j'ai raison. J'écrase tout le monde sur la route. C'est moi qui est au centre. Je ne suis pas prêt à écouter personne. Je ne suis pas prêt à céder à qui que ce soit. J'écrase tout le monde. Je gouverne tout le monde. Pourquoi? Parce que le but, c'est de sanctifier tous les moyens. Et ça, c'est bien sûr une très mauvaise mida. C'est un très mauvais trait de caractère qui est dangereuse, qui peut parfois être très destructif, soit destructeur, soit dans le couple, soit dans la société, soit dans n'importe quelle relation avec qui que ce soit. Et de cette mida, il faut s'éloigner au maximum. Donc on n'a pas dit qu'il faut avoir netzar partout, tout le temps, dans n'importe quelle situation. Pendant l'acte du chat. Dans l'acte du chat, il faut utiliser la mida de netzar. Dans les forces du mal, dans la klipa, dans les forces du mal, il faut s'éloigner ça au maximum. Qu'est-ce que ça veut dire dans le service de Dieu concrètement? Ce sont les trois exemples. Comme le Mishnah nous a dit, Torah, Avodah, Gemilut, Hassadim, dans Pirkei Avot. Torah, c'est quoi? Fixer du temps pour apprendre la Torah. Et la Torah, elle te dit, Aseh Torah Trakva, ça veut dire Keva, fixe. Ça veut dire que tu dois avoir un temps fixe, peu importe le temps, quelqu'un est fixe, 10 minutes par jour, un shiur par semaine, un shiur tous les Shabbat. C'est quelque chose qui est intransigeant. La Bible disait que quand on apprend la Torah, il n'y a pas de téléphone, c'est Shabbat. Et quand il y a des difficultés, et quand descend l'envie, quand descend la passion, néanmoins, sans tête pour se dire, c'est un moment que j'ai fixé pour apprendre, c'est à ce moment-là et pas rien d'autre. Ça, ça montre que l'étude de la Torah n'est pas quelque chose de côté, mais ça touche la personne en soi. Après, j'ai rencontré une très belle histoire, rappelle-moi à la fin une très belle histoire dessus. C'est quoi Avoda? Le travail? Le travail, c'est que, on sait que l'Avoda, c'est la Tfila. Ezo Avoda, c'est la Tfila. Avoda, c'est Shevelev. Avoir des temps fixes pour prier. Quelqu'un qui prie avec Minyan ou sans Minyan, même quand c'est difficile, même quand il n'a pas envie. Et bien sûr, mais l'autre Sadim qui est les bonnes actions, la Tzaka. En général, les gens, ils donnent la Tzaka, bien sûr, quand la situation financière, elle est facile. Quand il y a une difficulté, ou quand il y a une récession, ou quand il y a des difficultés financières, la première des choses que les gens, ils font, on arrête le prélèvement, on arrête l'aide, que malheureusement, on voit votre travail depuis quelques mois. Mais, viens nous aider, Midat HaNetzar. C'est quoi Midat HaNetzar? C'est que Gmilut Chassadim te dit que je donne pas parce que j'ai envie, ou parce que ça me fait plaisir, ou c'est facile, mais même quand il y a des difficultés. Et au contraire, quand on donne, quand il y a des difficultés, ça montre que la Tzaka que je donne, c'est pas quelque chose de côté ou extérieur, mais c'est quelque chose qui me touche dans mon âme. Il y avait une fois un millionnaire qui a demandé à son maître, puisque je suis riche, quelle est la somme minimum que je dois donner en Tzaka qui sera considérée pour moi que j'ai donné la Tzaka?
Quand ça fait mal.
Alors il a répondu, quand c'est difficile pour toi. Il a dit, quand tu donnes la Tzaka parce que c'est difficile pour toi et tu n'as pas envie de le faire, ça c'est la vraie mitzvah de la Tzaka. Il y avait le fameux grand milliardaire philanthrope américain Sam Brown. Il y avait une fois un énorme moment de récession dans le monde et beaucoup de donateurs ont arrêté de donner des dons. À Chabad d'ailleurs. Alors, il lui a demandé, est-ce que toi, tu as arrêté aussi de faire des dons? Il a dit, c'est pas une chokma, c'est pas intelligent de donner quand tout le monde donne et quand il y a d'argent. L'intelligence, c'est de donner à la zakat quand il n'y a rien et quand c'est difficile. Avec ça, on a appris, chers amis, c'est quoi la mitzvah de Netzar qu'on est en train de faire tous les jours, qu'on apprend à Pekka Vot, c'est Shabbat. Et ça revient, bien sûr, à la paracha Emor, Emor ve'amata, qui est de transmettre ses valeurs à nos enfants, la zirk de l'im alaktanim. Et ça rejoint, bien sûr, le thème général de Sfirat HaOmer, qui est de faire Avat Israël, l'amour du prochain. On se prépare à deux, il lui l'autre la semaine prochaine, Rabbi Meir Balanes, Pesach Sheni, mercredi. Et bien sûr, le Shem Bar Yochai, dimanche, vous attend tous à votre Shabbat. Le cours en replay sur etora.fr. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.